Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud.
Première question, des questions qui sont liées donc à la fête de Pessah et au passage de la fête de Pessah au lendemain. On va parler du septième jour de Pessah. D'abord, vous savez que il y a une discussion, est-ce que un jour de fête, on fait Souda Shlichit ou pas? C'est un sujet que j'aborderai peut-être plus en détail, Motsé Shabbat. Donc on parlera de Souda Arvit, est-ce qu'il y a Souda Arvit après un jour de fête ou pas, pourquoi, quels sont les tenants et aboutissants. Mais sans entrer maintenant dans le fond de la question, même les gens qui toute l'année ne font pas Souda Shlichit, lorsqu'arrive le septième jour de Pessah, il y a beaucoup de gens qui font une Souda Shlichit. Il y a deux raisons. Il y a une raison d'après le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna il dit pourquoi est-ce qu'il y a de quoi faire une Souda Shlichit le septième jour de fête. C'est pas le Gaon qui dit, mais enfin, c'est une interprétation de l'opinion du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que chaque fois qu'on mange un kzaït de matzah pendant la fête, on fait une Mitzvah de la Torah. C'est que d'après la plus grande partie des décisionnaires, la mitzvah de manger la matzah, c'est seulement le premier soir qu'il y a une mitzvah de la Torah. Le Gaon de Vilna lui dit que non, la mitzvah de manger la matzah, c'est pendant toute la fête de Pessah. Pas seulement le premier soir, mais chaque fois qu'on mange un kzaït de la matzah, on fait une mitzvah de la Torah. Donc le Gaon de Vilna, c'est pas une opinion qu'on peut négliger tellement facilement, c'est donc pour essayer de gagner l'opinion du Gaon de Vilna. Donc il y a des gens lors de Souda Shlichit, du dernier jour, lors de la fin de la fête, ils font une Souda Shlichit bien, qu'on d'habitude on fait pas une Souda Shlichit à la fin de la fête, tout ça pour gagner le plus de kézétim. Alors deux repas par jour, c'est une raison qui est intrinsèque à Chol HaMoed. C'est pas à cause de la fête, de manger de la matzah ou la fête de la mounette dans la soukha. C'est Chol HaMoed, il y a un inyan, c'est bien, c'est pas une obligation stricte, mais de faire deux fois par jour, t'y a tedaim. Donc manger deux fois par jour, de prendre un repas à Soukhot sur de la challah ou du pain ou de la pita et à Pessah sur la matzah. Donc c'est par rapport à l'obligation de Chol HaMoed. Et donc à Soukhot, quand Soukhot chacun s'en essaie de rester à Soukhot, l'âme à Pessah, comme il y a une opinion, donc il dit que la matzah, chaque fois qu'on en mange, c'est une mitzvah de la Torah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font la Shlichit le jour de Pessah. Donc, il y a aussi un minhag de Chabad, et les anciens Chabad, ils avaient le minhag de faire ce qu'on appelle Soudat HaMashiach. Donc il y avait un repas à la fin de la fête. Oui, non, je parle des anciens, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une petite déviation au niveau de Chabad qui fait une partie, je ne vais pas généraliser, une partie des gens des chassidés de Chabad aujourd'hui, vous savez, ils sont allés un peu trop loin. Enfin, ils sont même allés beaucoup trop loin. C'est pour ça que je parle des amis Chabad, des gens qui sont très respectables, mais au sein de Chabad, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande polémique par rapport à tous ces débordements qui sont quelque chose qui pose un problème essentiel. Il faut savoir que quelqu'un qui dit sur quelqu'un qui est niftar, qu'il vit encore au niveau historique, dont on a eu ça avec la chrétienté. C'est comme ça que la chrétienté a commencé. Donc il y a ici un débordement qui au sein de Chabad pose une grande polémique. Il faut le savoir, c'est pas une polémique qui est extérieure à Chabad. Au sein de Chabad, aujourd'hui il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui est un mouvement classique, le mouvement classique de Chabad. C'est une chassidoute comme tout autre chassidoute Chabad. Il y a un mouvement mshichiste, donc les chabadniks et messianiques qui vont dans une direction qui fait frémir. Alors, c'est pour ça que j'emploie le terme des anciens chabad. J'espère que c'est qu'une petite frange du mouvement chabad qui fait beaucoup de bruit, mais je pense qu'il n'y a pas de représentative de ce chassidoute qui est tout à fait respectable. Voilà, donc ça c'était par rapport à la soudate de Moshiach qui existait même avant que le rêve qui est Niftar, moi je dis qu'il est décédé, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. donc avant qu'il soit né, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant il faut savoir que lorsqu'on mange la matzah, c'est un sujet que j'aimerais, que j'aborde une fois de manière plus intensive, plus approfondie. Et si vous faites un sandwich, vous mettez la matzah, vous mettez un morceau de poisson dans le sandwich, est-ce que ça s'appelle vous avez mangé de la matzah ou pas? Lorsque vous sentez beaucoup plus le poisson que la matzah, est-ce que vous avez la mitzvah, d'après le Gaon de Vilna, d'avoir mangé de la matzah? Alors, le Sœur d'Israël a marqué que si quelqu'un il a mis beaucoup de maror sur sa matzah, il n'a pas fait la mitzvah de manger de la matzah. Parce que s'il ressent plus le goût du maror que le goût de la matzah, ça ne peut pas qu'il a mangé de la matzah. Autre problème, si quelqu'un trempe sa matzah dans une assiette à soupe, a priori, c'est plus de la matzah. Donc, c'est pas du chametz, c'est pas un problème de chametz, mais par rapport à la mitzvah de manger de la matzah, si vous l'avez trempé dans l'assiette, vous perdez, en la trempant, vous perdez la valeur de manger la matzah. On a parlé la semaine dernière de la personne âgée qui a des problèmes de dentition, qui n'arrive pas à mâcher la matzah. Donc on a vu qu'on avait la possibilité pour faire la mitzah de manger la matzah le soir du Seder, de tremper la matzah. Mais il ne faut pas tremper dans une assiette à soupe, parce que si vous trempez dans une assiette à soupe, le fait qu'elle soit en contact avec un liquide chaud lui perd son statut de matzah de pain. Donc tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la mitzvah, mais concrètement, au lieu de faire la mitzvah de manger la matzah, ils ne mangent pas la matzah. C'est pas la matzah dans le sens, la matzah au niveau de la mitzvah de la matzah. À partir du moment où il y a une perte de valeur gustative, c'est plus de la matzah. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on mange quelque chose de bon à Pessah, on fait une autre mitzvah de la Torah. Si vous faites bien manger, c'est parti de la simcha, donc du oneg. C'est pas dit qu'il faut vous arrêter de mettre du, je sais pas, vous aimez le réfort, ou vous aimez la mayonnaise, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais au niveau de ce qu'on essaie de gagner avec la matzah de la fin de la fête pour gagner encore un peu, une petite mitzvah encore comme ça, si vous l'avez trempé dans votre soupe, c'est pas évident que vous faites la mitzvah. Est-ce que lors du septième jour, on a le droit de parler de ce qu'on va manger lors de la mimouna? J'ai vu le problème, c'est qu'à Shabbat, ou un jour de fête, on n'a pas le droit de faire des projets qui sont irréalisables, le Shabbat ou le jour de fête. Il est marqué dans le Navi, il faut, la manière dont tu parles, le Kiddash, toi, tu dois sanctifier le septième jour, même chose pour le jour de fête, tu dois sanctifier, comment tu sanctifies? En parlant d'une autre manière, en s'habillant d'une autre manière, en parlant d'une autre manière, c'est comme ça qu'on montre la spécificité de ces jours importants. Donc, c'est pourquoi Shabbat, on a pas le droit de parler de choses qu'on ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas dire, je vais aller au côté, je prends la voiture, en hébreu ça se dit, Anissa, je vais voyager au côté de la Maravi. Parce que bien que c'est très important d'aller au côté de la Maravi, on ne peut pas prendre sa voiture Shabbat. Si on ne peut pas prendre sa voiture Shabbat, on ne peut pas dire, je vais prendre la voiture pour aller au côté. Vous pouvez le dire, je vais aller à pied. En français, ça passe parce que aller, ça peut être à pied. À pied, on a le droit, théoriquement, comme il y a une possibilité que la distance entre Jérusalem et Ramallah devienne faisable à pied. Donc, comme ça peut être fait à pied, donc on peut théoriquement dire, je vais aller à pied au côté de la Maravie. Ni l'air le côté de la Maravie. Donc, tout ce qui est interdit à faire Shabbat, on ne peut pas prévoir. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la parole aussi, il y a un respect de l'entité Shabbat qui implique donc un contrôle de la manière dont on parle. Alors, est-ce qu'il y a un problème de dire je mangerai lors de la mimouna, je vais manger des crêpes ou je sais pas ce que, des baguettes, des pitotes lors de la mimouna? Alors, la réponse, on a le droit de dire je mangerai des crêpes lors d'un mimouna, parce que ça n'implique pas un travail interdit. Votre femme va dire, je vais, à la limite, elle pourrait, parce qu'on peut faire, on peut cuire un Yom Tov, mais donc, mais dire, je vais acheter des petits pains après la fête, on ne peut pas dire, je vais acheter. Pourquoi on peut dire, je vais acheter? Parce que quand on peut acheter pendant la fête, on ne peut pas dire, je vais acheter. Alors, ce que Chazal interdit, c'est de parler, de dire quelque chose qui est une melacha qu'on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que Chazal ont interprété que la parole même a la valeur de mlacha, de travail interdit. Et ça n'a rien à voir lorsqu'on dit je vais manger du chametz. C'est pas une mlacha de manger du chametz. Comme c'est pas une mlacha de manger du chametz, bien que le chametz soit mouté Shabbat, il n'y a pas d'interdit de dire je vais manger du chametz motzaé Shabbat. Parce que c'est pas une mlacha. Consommer du chametz, c'est pas une mlacha. Ce qu'on a le droit de dire, c'est je vais faire une mlacha, un travail interdit. Là, ce qui est interdit, c'est de manger du chametz. C'est vrai, je ne peux pas manger du chametz le septième jour, mais comme Chazal ont associé la parole à l'acte, on dit que la parole c'est un peu un acte, au niveau d'une melacha, et ça n'a pas été associé au niveau de l'interdit de consommer du chametz, concrètement on a le droit de dire à le septième jour de la fête, je vais manger ce soir des petits pains. Je vais faire, on prévoir, ou mais de raconter, expliquer à quelqu'un comment fonctionne un moteur à essence, et comment on tourne la clé, pas je vais tourner la clé, on tourne la clé pour démarrer la voiture, c'est permis. Maintenant, il y a un sujet qu'on a abordé plusieurs fois déjà, j'aimerais faire un petit rappel sur ce sujet, c'est la problématique du Chametz Shavar Alav HaPesach. Donc le Chametz qui a survécu à Pesach, entre guillemets. Donc le Chametz qui n'a pas été vendu, qui est resté. Donc le problème se pose principalement par rapport aux achats qu'on veut faire après Pesach. Donc vous avez fait le bitul chametz, le bio chametz, vous avez vendu votre chametz, donc il n'y a pas de problème par rapport à votre chametz à vous. La question que je pose, c'est par rapport aux gens qui ne sont pas religieux, à un magasin, à un supermarché, qui a vendu ou pas vendu malheureusement son chametz. Tout chametz qui a, entre guillemets, qui n'a pas été vendu. Donc il reste un peu si c'est un juif, pendant Pessah, ce chametz il est interdit à la consommation. Non seulement la consommation, mais il est même interdit d'en jouir. Donc on n'a même pas le droit de le vendre à un non-juif, donc lui le consommerait. Même si la personne était shogeg, donc elle fait ça par inadvertance, ou même s'il y a quatre forces majeures. Il y a une problématique très très célèbre, une fois un rav qui a vendu le chametz de toute sa communauté à un goy, et après Pessah, c'est vrai que le goy c'était un bon juif, enfin pas un bon juif, mais un mauvais juif peut-être. Mais c'est un juif quand même. Concrètement, le chametz n'était pas dans la propriété des juifs, de la communauté, mais était en propriété d'un juif. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Si quelqu'un a vendu un peu plus persistant du chametz, ce chametz, directement, il est interdit à la consommation. Même si personne ne savait pas, quelqu'un a oublié de faire la vente du chametz, encore avant la fête, il y a quelqu'un, l'après-midi avant la fête, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Et il a dit, j'ai pas eu le temps de faire la vente. Et ce monsieur, il a oublié un paquet de vermicelle, de spaghetti en ivrite. Et donc, j'ai expliqué à ce monsieur, même s'il a fait le bio chametz, donc la veille de la fête, il a annulé son chametz, comme il n'a pas appliqué l'obligation de faire disparaître le chametz, donc il faut physiquement que le chametz ne soit plus dans notre possession, donc soit on le brûle, soit à la limite on le vend au goy. Donc ce chametz qui était annulé mais n'a pas disparu ou n'a pas été vendu, il a l'obligation de le brûler. Donc j'ai encore eu la même chez là hier, un monsieur m'a appelé dans la cage d'escalier, il a trouvé 4 paquets de pâtes alimentaires. Et donc là aussi, c'est à Pessah qu'il faut les brûler directement. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose du chametz qui n'a pas été vendu, qui n'a pas été détruit, il faut le détruire pendant la fête. Et peu importe quand on s'en compte. Si vous avez mis votre chametz dans une benne publique, là, a priori, c'est Efker. C'est Efker avec un problème parce que la benne publique, elle appartient à un juif, théoriquement. Mais recentré dans la pratique que ça appartient à un juif. Donc, ça, disons que le kablan qui s'occupe des poubelles publiques de Rennes, c'est un arabe. Si vous l'avez mis dans une benne publique, après vous l'avez sorti de votre propriété, et pas transgresser l'interdit d'avoir du chametz chez vous à la maison. Non, si un goy le sort là-bas, ou même chassé un juif, c'est pas votre problème. Vous l'avez rendu propriété publique. Le problème, c'est le chametz qu'on met chez soi à la poubelle. Je vais vous dire un secret. C'est pas un secret, c'est bien qu'il faut le savoir. Que dans les actes de vente, je sais pas comment c'est fait à Ranana, mais disons à Bnei Brak, où les actes de vente sont, c'est le dernier cri, c'est super sophistiqué, on essaie de faire ça de manière parfaite. Donc c'est un acte de vente, c'est un acte de vente qui a valeur même devant les tribunaux laïcs. Bien que vous savez ce qu'on pense des tribunaux laïcs, mais on ne veut pas que le propriétaire de Osem, il dise « Ouais, mais votre vente, je m'en moque. J'ai signé le papier juste pour avoir la cache-route. » Donc l'arabe, il peut théoriquement, avec le contrat de vente, il peut très bien acheter Osem. Donc maintenant, pour être sûr que si quelqu'un il a oublié du chametz quelque part, pour que ce chametz ne soit pas interdit, après Pessah. Et beaucoup plus, pas simplement pour ça, mais pour éviter que la personne transgresse un interdit, parce que s'il a fait une bâtelle chametz, mais il l'a gardé, c'est un interdit. Donc on inscrit dans le contrat de vente que le chametz, peu où il est, il appartient au goy. Je reprends. Dans l'absolu, votre hametz, vous devez le mettre derrière une mechitza fermée, parce qu'il ne vous appartient pas, il appartient à un non-juif. Et là où il est, l'endroit où il est loué aux non-juifs. Cette année, on n'a pas revu en détail les lois de la Mechira. Donc ça c'est dans les grandes lignes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans votre poche, vous avez oublié un bonbon? Ce bonbon, théoriquement, il appartient à Nasser. Il appelle ou à Vladimir, je sais pas qui c'est le gars qui a acheté votre hametz. Parce que le hametz, dans le compte, beaucoup de contrats de vente, on marque que le hametz, là où il se trouve, il est vendu. Donc le vrai qui se pose, et c'est un sujet qui est très pointu, qu'est-ce qui se passe si donc on trouve du hametz pendant Pessah? Si c'est un hametz qu'on sait qui n'a pas été vendu, quelqu'un qui n'a pas fait le prix de hametz, l'exemple de ce monsieur qui m'a posé la question la veille de Pessah, donc après le moment de l'interdit, je lui dis, Habibi, il faut le brûler ton hametz, parce que tu l'as pas vendu, tu l'as oublié, ses pâtes, elles sont interdites, il faut les brûler. Mais quelqu'un qui a fait une vente du hametz, et il y a une clause, c'est pas une clause idéale, mais une clause de dernier recours, le hametz, là où il est vendu au goy. Donc si on trouve un bonbon, est-ce que ce bonbon il appartient maintenant à Vladimir ou à Nasser, ou est-ce que ce bonbon il vous appartient? Il ne peut pas vous appartenir, mais en fait, théoriquement, il appartient au goy. S'il appartient au goy, théoriquement, il n'y a pas de mitzvah de le brûler. Ce qu'il faut faire, dans un tel cas, c'est le mettre derrière la mechitza, le mettre dans un endroit qui était vendu au goy, pour que il n'y ait pas de risque que vous venez à le consommer. Alors, la halakha, si on a du temps, on sera machelé, mais on complétera avec la halakha après. Mais j'aimerais commencer avec cette histoire. Parce que c'est une histoire qui, personnellement, j'ai entendu ce Pessah, et ça m'a beaucoup, beaucoup pris les tripes. C'est qu'on dit, c'est une des Mishnot les plus célèbres que tout le monde presque connaît par cœur, c'est Rabbi Hanana ben Akasha Ama, Ratzah Akadosh Baruch Hu Zakot et Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu le Zakot, donner du Srout aux Juifs. Le Fichar, c'est pourquoi Hirba Laem Torah ou Mitzvot, il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. Donc c'est qu'il a marqué Hashem Chafetz Zaman Tzidko, Yagil Torah, il a dit Akadosh Baruch Hu, il a donné beaucoup de Mitzvot aux Juifs. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les Zakot d'Israël a voulu donner du mérite, beaucoup de mitzvot? Il y a certains juifs pour lesquels chaque mitzvah c'est un casse-tête. Donc, a priori, pourquoi est-ce que les Zakot d'Israël, pourquoi est-ce que il a voulu donner tellement de mitzvot? Je veux dire, il y a des certaines personnes, pas vous, pour lesquelles chaque mitzvah c'est un souci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tellement de problèmes, tant de soucis? Bon, première réponse, c'est que les mitzvot, c'est pas des soucis, c'est pas des problèmes, c'est un sroute. Alors les commentateurs, ils expliquent que Zakot et Israël, c'est pourquoi c'est un sroute? Parce qu'en fait, chacun peut et doit essayer de faire au moins une mitzvah beshlemout, de manière parfaite. Mais manière parfaite, c'est faire une mitzvah de Shem Shamayim, de faire la mitzvah parce que Kadosh Baruch Hu vous a demandé de le faire, et parce que Kadosh Baruch Hu, donc nous aime, donc on aime Kadosh Baruch Hu et on fait des choses par amour. Donc les commentateurs, ils expliquent que c'est un sroute. Pourquoi? Parce que chaque juif a une personnalité différente. Donc chaque juif, dans l'ensemble des 613 mitzvot, peut et doit trouver au moins une mitzvah. On doit faire toutes les mitzvot. Mais une mitzvah qu'il doit essayer d'accomplir beshlemout, de manière parfaite. Parfaite, c'est entre autres la discrétion. C'est ne pas faire beaucoup de bruit. Enfin, vous racontez à tout le monde qu'on fait certaines mitzvot, parce que lorsque on raconte, on publie certaines mitzvot, on est perdant. On perd le sahar, on perd le mérite de la mitzvah. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui date d'une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Il y a la synagogue dans laquelle je prie tous les matins, à Bnei Brak, au Rov Maharshal numéro 4. Son gabaï, il s'appelait, il est décédé il y a 5 ans à peu près, il s'appelait Rabbi Shlomo Zalman Trober. Bon, c'est un monsieur, c'est pas un rab, c'était un commerçant qui a décidé de s'occuper d'un bête midrash. C'est un monsieur Bnei Brak classique, sans rien de particulier, sans rien de spécial. Et un monsieur populaire, c'était pas un rave, c'était pas un monsieur tout le monde. Gentil, bien, rien de spécial. Ce monsieur, il est arrivé en Israël, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, et pour sa parnassa, pour son kanepa, donc il a décidé d'ouvrir un négoce de matériel pour les cordonniers. Donc il importait du matériel pour les cordonniers et il le vendait aux cordonniers. Donc, si vous voulez, une sorte de grossiste dans tout ce qui est semelles, et, etc. Bon, son commerce, il l'a installé à Yafo, en bas, à côté de Tel Aviv, pas loin de la fameuse horloge de Yafo. Bon. Et pendant des années, ce monsieur allait tous les jours donner voir à Yafo et travaillait là-bas. Et chaque année, lorsqu'approchait Pessah, il devenait fou. Pourquoi il devenait fou? Parce qu'il avait un voisin sur la grande place de Yafo, quelqu'un qui était presque en face de lui, qui avait une boulangerie industrielle, donc pas une petite boulangerie, une grosse boulangerie, qui s'appelait Aboulafia. Aboulafia, Mafiat Aboulafia, les anciens d'Israël, ça, Aboulafia, à Yafo, c'est une gigantesque boulangerie industrielle qui appartient à un arabe, qui se moque à nous, Aboulafia, c'est un arabe. Donc ce monsieur, donc il est cet arabe, toute l'année il vendait ses pitotes, etc. Mais il y avait un moment d'année où il faisait pas fortune, c'était à Pessah. Parce qu'à Pessah, toutes les boulangeries de Gouzdan, Baruch Hashem, à l'époque étaient fermées, sauf à Aboulafia. Aboulafia dit, moi je suis un goy, je suis un arabe, c'est pas mon problème. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup de juifs allaient acheter des pitotes et du hametz pendant Pessah. Et ça rendait donc monsieur Traubert fou de voir que tellement de juifs mangeaient du hametz à Pessah. Et ils pouvaient rien dire à cet arabe. Cet arabe lui-même, c'est son, entre guillemets, c'est son problème. Ce qui faisait mal, c'est les juifs. Mais c'est à cause de cet arabe, tellement de juifs mangeaient du hametz à Pessah. Et ça le rendait totalement fou. Alors, cette histoire, ce qui s'est passé, on l'a dévoilé en fait seulement après le décès de ce Rabbi Shlomo Zalman Traubert. Ses héritiers ont trouvé des différents documents qu'ils n'ont pas compris. Dans les années, c'est un professionnel, et c'est ainsi que l'histoire a été reconstituée. Donc en 1971-72, M. Traubert est allé voir M. Aboulafia. Quelques temps avant Pessah, il dit, écoute, ce que tu fais, c'est terrible, parce qu'à cause de toi, beaucoup de juifs qui mangent du hametz, c'est pour nous le hametz, c'est terrible. Je vais faire un accord avec toi. Tu vas, pendant Pessah, fermer boutique. Et on va faire un contrat en bonne et due forme, comme quoi, pendant Pessah, tu fermes boutique. Ils ont fait un contrat serré, parce que vous savez, les Arabes. Donc, ni toi, ni tes enfants, ni tes petits-enfants, ni tes émissaires, ni qui que ce soit, hein, ils ont bien bouclé le contrat parce qu'avec un arabe, on ne sait jamais ce qu'il va trouver. Personne, il n'y aura pas une parcelle de hametz qui va être vendue de la boulangerie Aboulafia. En plus, donc, je te paye l'hôtel, mais tu vas dans le Galil, tu vas très loin de Yafo pour qu'il n'y ait pas de tentation. Toi et ta famille, je te paye l'hôtel. Alors tu me fais un calcul, tu me dis combien c'est ton manque à gagner de ce que tu ne vends pas du hametz à Pessah, et je te paye. Mais tu t'engages, donc ils ont fait un contrat en bonne et due forme, à ne rien vendre. Le goy, il a fait un calcul avec le manque à gagner direct, indirect et indirect, indirect. Donc tout ce qui pouvait rentrer comme perte à long terme, à moyen terme. Donc il avait entendu enfler ça parce qu'il s'est dit, bon, pourquoi pas? Si je peux gagner autant d'argent sans travailler, en plus j'ai l'hôtel payé. Donc il l'a fait. Il l'a fait. Et donc pendant Pessah, Aboulafia a été fermé. En 1971 ou 72, la première fois, c'était la mafia Aboulafia était fermée. J'ai un ami, c'est un rabbin, il m'a raconté que quelqu'un d'un Baltoua qui connaît, lui a raconté, en effet, il se rappelle, il était allé à Pessah comme chaque année chercher du pain à Yafo, et il a trouvé la porte fermée, il s'est mis à chercher des matzot. Donc beaucoup, beaucoup de juifs comme ça de la région du Gouche d'Anne, grâce à ce M. Traubert, pendant la fois le premier Pessah, n'ont pas mangé de hametz, parce qu'une fois qu'Aboulafia a été fermée, il n'y a plus de hametz dans le Gouche d'Anne. Il n'y a plus de hametz qu'on peut acheter comme ça, du pain ou des pitotes, etc. Donc ils sont retournés, ils ont mangé, de bon gré ou pas, des matzot. La suite de l'histoire, c'est que l'année d'après, de nouveau, M. Traubert, il est allé chez l'arabe, il dit, bon, on refait la même chose. De nouveau, ils ont fait le calcul, etc. Et il a donné l'argent pour qu'il ferme boutique. s'agit d'une grosse boîte. C'est pas la boulangerie de quartier dont on se rappelle de France. Hein. En Israël, la plupart des boulangeries, c'est une boulangerie industrielle, donc c'est une grosse boîte. Hein. C'est pas Angel ou Berman de Jérusalem, hein, mais c'est pas une petite boulangerie de quartier. C'est une somme assez importante. Et donc, pendant 3 ans, comme ça, M. Traubert a donc payé l'arabe pour qu'il prenne des vacances et que sa boulangerie soit fermée. Je crois 3 ans ou 4 ans. L'année d'après, à l'approche de Pessah, lorsque M. Traubert est venu chez l'arabe, et donc il a de nouveau préparé une somme mirobolante pour. L'arabe m'a dit, écoute, tu n'as pas besoin de payer. Cette année, je ferme boutique sans que tu me payes un centime. Bon, pourquoi? Et l'arabe lui a dit, écoute, je me suis rendu compte d'une chose, depuis que j'ai fermé à Pessah, mes bénéfices de toute l'année ont pris une telle amplitude, une telle taille, que je me rends compte que j'ai une bracha. Du fait de fermer boutique à Pessah, ça me porte une bracha. Et je pense que c'est pas juste que je te demande tellement d'argent, alors qu'en fait, grâce à toi, je gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent toute l'année. Et donc, M. Aboulafia a fermé boutique sans prendre l'argent de M. Strauber. Et il y a quelques années, il est décédé. Et il a donné dans son héritage, il a dit à ses enfants, vous maintenez la boulangerie fermée à Pessah. Alors, cette histoire, comment est-ce qu'elle a été découverte? Donc, lors du décès de M. Strauber, et ses héritiers ont trouvé des papiers. Donc, il n'avait jamais raconté à qui que ce soit cette histoire. Personne, même dans sa plus proche famille, ne le savait ce qu'il avait fait. Les deux seules personnes qui le savaient, c'était donc M. Traubert et Aboulafia, c'est l'avocat qui avait aidé à rédiger le contrat. Pourquoi Aboulafia était fermé à Yafo? Les gens, tout le monde voyait qu'Aboulafia était fermé, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et M. Traubert ne l'avait raconté à personne. Il voulait que cette mitzvah se passe dans la plus grande discrétion, que personne ne le sache. Et donc, c'est seulement à sa petite ra, les héritiers ont cherché un peu dans les papiers, et ils ont vu donc cette histoire de vente. Dans la somme que représentait la vente la fermeture d'Aboulafia pendant Pessah, c'est l'équivalent d'un appartement de 3 ou 4 pièces, donc en région de Tel Aviv. L'arabe, il demandait beaucoup d'argent parce qu'il gagnait beaucoup d'argent en fermant boutique. Donc ce monsieur a pris de sa fortune des sommes considérables. Pourquoi? Pour avoir le sroute d'éviter que des juifs ils mangent du Hametz à Pessah. Voilà, c'est une petite histoire pour montrer l'attaque que je vous à côté d'Israël. Hein, donc ce monsieur, il a fait cette mitzvah sans en parler à personne. Une shlemout, quand on fait une mitzvah dans la discrétion. Lorsqu'on fait une mitzvah comme ça, sans en parler autour de soi, il y a une shlemout dans la mitzvah. C'est une mitzvah qui a une autre valeur, qui a une autre force. Et c'est ça le pshat de à côté d'Israël. Chacun a la possibilité de trouver dans la Torah de Kedusha une mitzvah qui va être sa mitzvah à lui. Ce Rabbi Traubert, en dehors du fait qu'il a maintenu pendant des années un Beit Midrash, ça tout le monde le savait, lorsqu'il est arrivé après 120 ans en haut, il a trouvé un grand sahar que beaucoup de juifs ont arrêté de manger des pitotes et du pain frais à Pessah grâce à lui. Voilà, ça c'était la petite histoire, enfin, que je voulais vous raconter parce que personnellement, ça c'est une histoire qui prend le cœur, qui donne un exemple des choses qu'on a envie de faire et qu'on peut réaliser. Donc, on reprend la question d'acheter du Hametz après Pessah dans un magasin. La semaine prochaine, mardi matin, vous allez faire les emplettes, vous allez faire des achats. Donc, du Hametz qu'on sait qui n'a pas été vendu, est-ce que ce Hametz, on a vu qu'il est interdit à consommation, il est interdit, il est sur banane, on n'a pas le droit de tirer profit, mais de le vendre à un non-juif. Concrètement, vous voulez acheter des pâtes. Alors, si vous êtes dans un supermarché qui a en devanture, il y a un papier de la Rabbanout, comme quoi il a vendu son Hametz. Si ce monsieur, c'est un monsieur qui est religieux, un monsieur religieux, lorsqu'il va chez le Rav Peretz, pour vendre son Hametz la veille du Pessah, il le fait avec toutes les kavanot. Il le fait avec toute l'intensité parce que il connaît la gravité du Hametz. Donc, lorsqu'il va signer son papier de vente du Hametz, il le fait avec le plus d'intégrité possible. Il veut que son chametz appartienne au goy pendant Pessah. Donc si le monsieur qui a le supermarché est un juif religieux, il n'y a pas le problème d'acheter du chametz chez lui. Même si du chametz qui a été vendu à Pessah, même si des pâtes qui ont passé Pessah dans son magasin, donc il n'y a pas de problème parce que ce chametz, il appartient pas à Pessah, il appartenait réellement au goy. Donc il y a pas, ce chametz n'a pas le statut de chametz chavala à Pessah. Donc là, il y a une réponse qui est claire et nette. Du chametz qui a pendant Pessah a été vendu comme il faut, c'est-à-dire que ça a été vendu par un monsieur qui est religieux, donc il connaît la gravité du chametz. Il n'a pas simplement vendu son chametz pour avoir une théouda, pour le mettre en devanture, il a vraiment vendu son chametz. Ce chametz, après Pessah, vous pouvez l'acheter. Ah, avant Pessah, je vous ai dit qu'il y a une chumra de ne pas vendre du vrai chametz. C'est une chumra pour vous, Rabotai. Vous devez essayer d'éviter de vendre des petits restes de biscuits, de beigelets, parce que c'est dommage de vendre dans ces petites quantités de chametz. Et si d'abord c'est une chumra, donc même si vous avez vendu ce genre de chametz, vous avez le droit de le consommer après Pessah. Si c'était bien vendu, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'il s'agit d'un commerçant, c'est évident qu'un commerçant n'a pas besoin de liquider tout son stock, de mettre tout à la poubelle ou de brûler tout son stock, il a le droit de le vendre. Pour lui, c'est une grande perte. Donc si la vente était effectué par un monsieur, donc qui est un monsieur qui respecte la halakha, qui est conscient de l'importance d'un vendu chametz, ce chametz, vous avez le droit de l'acheter le chatrila. Même quelqu'un qui est mahmir de ne pas vendre du chametz, le chametz qui a été vendu n'est pas interdit. Pour information, il y a une chumra beaucoup, beaucoup plus éloignée que la chumra de ne pas vendre du chametz avant Pessah, de ne pas consommer du chametz qui a été vendu. Mais c'est une chumra qui est beaucoup, beaucoup plus éloignée, vous n'avez aucune obligation de la respecter. Donc au niveau de l'alakha, vous avez le droit d'acheter dans une makolette qui est religieuse du chametz qui a été vendu. Le transfert de propriété en droit hébraïque n'a rien à voir avec le paiement. À partir du moment où c'est sous sa responsabilité, ça lui appartient. C'est à lui. Il n'a pas payé encore, il a une dette financière, mais c'est à lui. Donc ça appartient, et peu importe si ça appartient dans l'absolu, d'abord, il faut savoir que ça lui appartient. Même si ça appartient à un grossiste, si le grossiste n'a pas vendu son chametz, c'est le problème est le même. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si vous voulez acheter dans un supermarché qui est non religieux? Alors, si le monsieur n'a pas fait de brihat chametz, on n'a pas le droit d'acheter chez lui, c'est évident. Parce que le chametz, il est interdit à la consommation. Donc, si c'est un supermarché qui n'a même pas de teouda qu'il a vendu, c'est évident qu'il est strictement interdit d'acheter chez lui du chametz. Donc, tant qu'il n'y a pas un réapprovisionnement, et la loi précédente, il faut aussi vérifier, parce que pour éviter le problème que je vous ai dit auparavant, les grossistes qui ne vendent pas leur chametz, il faut vérifier sur les paquets de pâtes la date de fabrication. Vous avez un code, le code il est relativement simple à déchiffrer, c'est le nombre de jours de l'année. Donc il faut, le Pessah, je ne sais pas si c'est le 102, 101, 102, 103, je n'ai pas fait un calcul exact, c'est autour ce tour de après, à peu près 90, il faut que le code soit après 100 sans les poussières. Donc si le code est moins que 100, c'est le chametz, c'est du chametz sur lequel il y a un problème. Il y a un problème, il y a un doute, est-ce que ce chametz a été vendu ou pas. Dans l'absolu, s'il y a un safek, si dans 2 mois vous allez acheter un produit, et peut-être ce produit n'a pas été vendu à un Pessah, si du chametz a été vendu, du chametz interdit parce que avant la Pessah, il a persisté Pessah, il n'a pas été vendu. Si un safek, ce chametz, est-ce qu'il est un permis ou interdit? C'est une machloket poskim. Il y a des poskim qui permettent, il y a des poskim qui interdisent. Mishra Brura n'a pas été marqué, il n'a pas tranché dans cette machloket. Donc safek, chametz, shavla, pesach, c'est une machloket si c'est moutar ou assou. Le Mishra Brura n'a pas tranché. Donc concrètement, si 2 mois après Pessah vous allez dans un magasin, bon, c'est une machloket qui n'est pas tranchée. Il y a toujours cette possibilité de voir le code de fabrication, et sur tous les paquets d'éléments, il y a un code de fabrication qui vous dit quand ça a été fabriqué. En fait, donc c'est un safek qu'on peut facilement élucider. Lorsqu'il s'agit donc de... Maintenant, il y a un problème avec le supermarché qui a vendu son chametz. Il a mis en devanture la touda de la Rabbanout, mais malheureusement, pendant Pessah, ce monsieur il a vendu le chametz. Vous savez qu'il y a certains magasins où la couverture en papier sur les rayons chametz, C'est une couverture qui est de pure forme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu forme fer pur et clair. Et concrètement, il y a un accord tacite du propriétaire du magasin parce que lorsqu'on passe à la caisse, ils acceptent de vendre le produit chametz. Donc d'après le Maharam Chik, hein, un monsieur qui a fait ce genre de vente, sa vente est nulle. Parce que la vente du Hametz avant Pessah n'a plus de valeur parce que chaque fois qu'il revend du Hametz, il se moque de la vente. Il y a une tshuva du Grot Moshe qui dit que non, qu'à partir du moment où il a signé un contrat comme quoi il vend tout le Hametz, donc le Hametz est vendu, mais ce même Grot Moshe il dit qu'il ne faut pas acheter chez quelqu'un comme ça. Donc après Pessah, on va conclure, après là, concrètement ce qu'il faut faire, c'est essayer d'acheter, alors on peut, de l'endroit de Pessah, acheter des pâtes dans un magasin, même si ces pâtes, elles ont été fabriquées avant Pessah, à une condition que le propriétaire du magasin, c'est un monsieur qui a fait une bonne vente en bonne et due forme, et lorsqu'il a fait sa vente, il l'a fait sérieusement. Donc sérieusement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un donc, de religieux, parce qu'a priori, lorsque quelqu'un est religieux, il y en a priori, il a vendu son chametz avec toutes les kavanot. Donc ce chametz, on peut l'acheter tranquillement. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'acheter du chametz dans un supermarché, on rentre dans un problème et il faut l'éviter. Donc il faut essayer d'acheter après Pessah du chametz dans des magasins qui ont vendu le chametz et dont le propriétaire qui est quelqu'un de religieux.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.